Oui, nos œuvres ne sont que des vêtements dessus. Et c'est l'œuvre de Christ seul, à notre égard, qui nous sauve. Quand tu étais en train de parler, le Seigneur m'a fait rappeler de Matthieu chapitre 6, où Christ, en enseignant sur la prière, disait, dans le verset 7, en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et puis, verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » La véritable prière, c'est le silence devant Dieu. Ce n'est pas d'ouvrir la bouche comme on voit des gens en train de faire. Ça provient du cœur et c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui prend nos sentiments et qui les présente devant Dieu, mais toujours en Jésus-Christ. Alors, il y a une soumission totale, même lorsque les gens sont bouleversés autour de nous, ou bien même dans notre chair, nous sommes bouleversés. Ce que nous apprenons ici, c'est de garder le silence devant Dieu. Et dans le verset 9 de Matthieu 6, « Voici donc comment vous devez prier. » Les instructions sont claires, mais les gens ne les suivent pas parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et ils ne peuvent pas réellement dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Voilà ce qui manque, parce que les gens ne connaissent pas le véritable Dieu, le Père de ceux qu'il a choisi et donné à son Fils, Jésus-Christ. C'est une famille. Mais ceux-là courent comme s'ils font partie de cette famille de Dieu, mais c'est seulement une religion, des œuvres apprises de quelqu'un d'autre et non pas l'œuvre de Christ. Parce que si réellement Dieu nous a révélé Christ et son œuvre accomplie pour des pécheurs tels que nous sommes, nous serions dans notre esprit entièrement soumis à sa volonté. Et notre prière serait simplement « Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » Voilà la souveraineté de Dieu. « Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors quand les gens courent, ils viennent, ils veulent que je prie pour eux, mais je pose toujours la question, qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Si c'est ta volonté, donc ça c'est contre la Bible. Si c'est demander à Dieu que sa volonté soit faite, mais l'homme dans sa rébellion ne veut pas la volonté de Dieu. L'homme veut à tout prix sa propre volonté, et voilà la guerre, voilà la lutte, le combat, et qui démontre que notre chair est pécheresse, et qu'il nous faut la grâce de Dieu de soumettre à lui en toutes choses. Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans 1 Timothée chapitre 6. Et je voudrais étudier avec vous du verset 17 au verset 19. Nous arrivons vers la fin de cette première épître de Paul à Timothée. Et nous avons vu beaucoup d'instructions qu'il donne à Timothée pour la manière de diriger l'assemblée. Et réellement, il y a beaucoup là-dedans. Il nous faut la sagesse de Dieu surtout. Ce n'est pas pour n'importe qui de prendre le devant et se lever devant les hommes, ouvrir la Bible et prêcher. Il faut dire que c'est un ministère que Dieu lui-même doit donner, et cela à travers la révélation de Christ dans le cœur de celui qui prêche. Autrement, quelqu'un ne pourrait jamais prêcher Christ ou prêcher l'Évangile. Et c'est pourquoi nous constatons tant de désordre aujourd'hui dans les assemblées, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et aujourd'hui même des femmes qui se donnent ce pouvoir de diriger les assemblées. Pourtant, Dieu ne les a jamais envoyés. Et ils sont comme des aveugles qui dirigent les aveugles. Et finalement, ils tombent tous dans le fossé. Mais ici, dans 1 Timothée 6, à partir du verset 17, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Alors, ici, nous avons la suite de l'ordonnance que Paul a donnée à Timothée dans le verset 11 et 13 et 14. Voyez comment Paul écrit, « Pour toi, homme de Dieu, fais ces choses. » Et quelles choses? Quand on retourne en arrière dans le verset 9, il dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » Alors, d'un côté, on a ceux qui veulent s'enrichir, et de l'autre côté, dans le verset 17, on a ceux qui sont déjà riches. Mais peu importe, en contraste avec ceux qui veulent devenir riches, nous trouvons ici ceux qui sont riches. Paul recommande ici, et on voit ça dans le verset 13, « Je te recommande devant Dieu ». Une recommandation, c'est une ordonnance. Alors, il est en train de dire ici, comme dans le verset 14, de garder le commandement. Quel commandement? De s'attacher à Christ et tout ce que nous avons déjà en lui, tout ce que nous sommes déjà en lui. Si nous sommes enfants de Dieu et des pécheurs pour qui Christ est mort, nous avons déjà en lui toutes les richesses nécessaires. Pas seulement pour cette vie, mais pour la vie à venir. Comme il dit ici, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alors, nous avons ce contraste ici avec ceux qui veulent devenir riches, verset 9, et ici ceux qui sont riches. Alors, ça pose la question, est-ce que les richesses sont mauvaises ou bien est-ce que c'est quelque chose que Dieu lui-même donne à certains et on peut en servir pour la gloire de Dieu? Bon, la réponse, c'est que, comme on a déjà vu, le mal n'est pas dans l'argent, mais c'est dans l'amour de l'argent, comme dans le verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Mais il faut savoir que Dieu, dans sa souveraineté, c'est lui qui donne la richesse et c'est lui qui aussi fait pauvre. Cela est selon sa volonté. Mais le problème, c'est que l'homme souvent ne veut pas accepter soumettre à la volonté de Dieu, alors il cherche toujours à s'enrichir, et c'est souvent ce désir-là qu'il détourne de la foi. et de la vérité. Alors, nous trouvons cette même exhortation dans l'épître de Jacques, chapitre 1 et le verset 9, où c'est écrit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Vous voyez comment c'est écrit? Il y en a que Dieu a rendu humble par les tentations et par les détresses, par la pauvreté, mais celui-là doit glorifier Dieu même dans cet état comme celui qui est riche. Celui que le Seigneur a béni avec certaines richesses ne doit pas se confier dans ses richesses, mais il doit plutôt glorifier Dieu à cause de la bonté de Dieu en lui donnant tout ce qu'il a. Le point que nous avons ici dans 1 Timothée 6 et le verset 17, le problème n'est pas avec les richesses, parce que c'est Dieu qui donne toutes choses. Et tout se passe selon sa volonté. Mais il s'agit ici de mettre à profit les biens terrestres pour la gloire de Dieu, loin de tout hauteur d'esprit, sans mettre une confiance mal placée dans ses avantages d'une position que Paul dit ici, il appelle ça une position incertaine, ouais, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Voilà notre problème, parce qu'une fois que nous sommes bénis avec une certaine richesse, nous commençons alors, et encore c'est le cœur pécheur qui fait cela, qui nous amène à mettre notre confiance dans ses richesses, et c'est là le mal. Au lieu de continuer à nous soumettre à la volonté de Dieu et regarder vers Dieu seul comme celui qui est le souverain donateur et qui donne toutes choses, nous commençons à mettre notre confiance dans ce qu'il nous donne. Alors il nous faut rappeler les enseignements toujours de la parole de Dieu, que c'est toujours agréable à Dieu d'adorer Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, et de reconnaître encore que les véritables richesses dont on parle ici ne sont pas dans les biens de ce monde, mais c'est dans l'œuvre de Christ et Christ seul. Alors, nous avons vraiment besoin de cette parole et d'être rappelés de cette vérité tous les jours de nos vies, parce que nos cœurs sont pleins de convoitises. Et laissés à nous-mêmes, on serait rapidement détournés de la voie, qui est une voie de perdition, de destruction, si Dieu ne nous garde pas. Alors, tous ceux qui sont disciples du Seigneur sont appelés à servir des biens qu'ils ont, que ce soit beaucoup ou peu, mais tout ce que nous avons, de nous servir de ces biens pour la gloire de Dieu et pour le bien-être d'autres. Et je crois que c'est ça qui démontre un véritable esprit de grâce en ceux qui appartiennent au Seigneur. Ça se manifeste en montrant des bonnes œuvres, comme c'est écrit ici dans le verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Je crois une bonne œuvre encore, c'est pas ce qui provient de nous, parce qu'il n'y a rien en nous qu'on peut appeler bon, mais c'est la grâce de Dieu qui est bonne et qui se manifeste à travers nous, malgré notre état de pécheur, et qui nous pousse à démontrer cette bonté de Dieu, cette miséricorde de Dieu envers d'autres qui sont peut-être dans une situation de besoin. Et Dieu nous pousse alors à être prompt à donner, être libéral, ne pas garder avec une main fermée ce que nous avons, saisi ces choses. Et en faisant cela, il dit alors dans le verset 19 de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Voilà un verset qui nous faut maintenant la sagesse de Dieu pour bien interpréter, parce qu'il y a certains, en lisant cela, qui vont penser que s'ils prennent des biens qu'ils ont et ils offrent ça toujours à d'autres, et à travers des bonnes œuvres, ils sont en train de gagner le ciel. Mais tel n'est pas le sens de ce verset. S'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, c'est de dire que nous avons déjà ce trésor qui est placé sur un fondement solide. Le fondement solide, c'est comme Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 11, il n'y a autre fondement que celui qui a été posé déjà, savoir Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas imaginer que on amasse un trésor par nos œuvres. Non, c'est de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Cela veut dire cette grâce de Dieu qui continue à être manifestée à travers nous. C'est Dieu qui nous donne cette grâce et c'est aussi une évidence, une preuve de ce que nous avons déjà en Jésus-Christ placé sur ce fondement solide. C'est, nous avons déjà tout en lui. Donc, on n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire de saisir les biens de cette terre parce que tout ce que nous avons ici, c'est passager. Cela veut dire, c'est temporaire. Et le jour viendra où nous devons laisser tout cela ici, mais ce qui est sûr, ce qui est solide, c'est ce trésor qui est placé sur ce fondement solide. Imaginez tout ce que nous avons déjà en Jésus-Christ. Si nous sommes à lui, on ne peut pas avoir de richesses sur cette terre qui compare à ces richesses que nous avons en lui à travers sa mort. Nous avons le pardon avec Dieu déjà. Nous avons la réconciliation avec Dieu. Nous avons en Christ déjà la sainteté, la justice que Dieu exige. Nous avons ça déjà en Christ. C'est pas en nous, mais c'est en lui. Donc, voilà les choses que nous devons saisir et non pas les choses terrestres. Et c'est pourquoi, si nous avons déjà ces richesses en Christ, pourquoi ne pas être prompt à donner et à être libéral et envers d'autres qui sont peut-être dans un état de nécessité. Ouais, nous sommes prêts toujours à manifester envers eux cette miséricorde dont nous avons bénéficié en Jésus-Christ. Alors, dans le verset 19, c'est ça l'apôtre attire notre attention sur la nature de cette vie que nous avons déjà en Jésus-Christ. J'ai déjà mentionné tout à l'heure Matthieu chapitre 6 et le verset 19 à 21. Maintenant, je voudrais lire l'instruction que Christ a donnée à ses disciples. Et c'est en rapport avec ce que Paul écrit à Timothée. Ici, dans Matthieu 6, tout à l'heure, nous lisions dans les versets 6 à 9, mais ici, le verset 19, Christ dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors pour ce qui est des biens de ce monde, nous ne sommes que des administrateurs agissant pour le compte de Dieu. Rien de ce que nous avons ne nous appartient. Et voilà, nous tombons dans l'erreur en imaginant que ce que nous avons nous appartient. Souvent on parle comme ça, mes enfants, ou bien ma maison, ou bien ma voiture, ou bien ma santé. Mais rien ne nous appartient, parce que le fait que lorsque nous mourons, nous laissons tout cela ici, cela est évident, alors que ce n'est pas à nous. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons pour un temps. Alors, il s'agit par sa grâce et selon la sagesse qu'il donne d'être de bons administrateurs en ce qui concerne ses biens. Alors, nous sommes dans une position comme des serviteurs à rendre compte de notre administration à Dieu et démontrer par sa grâce une certaine prudence et fidélité. Les richesses dans la Bible sont appelées injustes parce que l'homme entre nos mains. Souvent, nous prenons ces choses à notre propre profit au lieu de simplement être l'administrateur selon Dieu. Et tout cela prend de la sagesse de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup qui demandent à Dieu des richesses, mais Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent parce que ils n'ont pas un cœur réellement d'utiliser ces choses à la gloire de Dieu. Si Dieu leur donnait réellement ces richesses, ils allaient tout de suite dans un autre sens pour servir de ces biens pour leur propre fin. Alors Dieu est juste, il est sage en tout ce qu'il fait, et quel que soit notre état, que ça soit riche ou pauvre, selon ce que le monde appelle riche ou pauvre, nous savons que, comme c'est écrit ici, nous avons déjà toute richesse en Jésus-Christ. Mais nous devons toujours nous montrer prudents dans l'administration des biens de ce monde. Et c'est ce que nous avons dans l'exemple de Moïse, dans Hébreux chapitre 11 et le verset 24 et 25. Hébreux chapitre 11, quand il s'agit de Moïse, c'est écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, fixés sur Christ. Christ est la rémunération. Alors, Moïse, on se rappelle, était sauvé des eaux par la fille de Pharaon lorsque sa mère lui a placé dans le panier. Et en grandissant, il aurait pu dire, la providence m'a placé ici, alors j'y reste. Il aurait pu jouir des richesses du monde. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte était une des nations les plus riches, plus avancées que d'autres nations. Et Moïse aurait pu jouir des richesses de rester là, mais Dieu lui a donné cette grâce de ne pas mettre son cœur sur ses richesses, mais dans sa grâce, il a appelé de sortir de l'Égypte en dirigeant les enfants d'Israël, de sortir aussi. Et comme c'est écrit ici, regardant verset 26, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Certains peuvent peut-être dire, oui, mais Christ n'y était pas à l'époque. Mais il faut savoir qu'il était là dans les types, dans les symboles, et en tout ce que les sacrifices représentaient. Alors, Christ était là dans les types, les symboles, les figures de tout ce que le tabernacle, les sacrifices, les sacrificateurs représentaient. Et Dieu, par son esprit, lui a donné ses yeux pour voir Christ dans ces choses et préférer s'identifier alors avec ce peuple, avec Christ, par la foi, que de rester là parmi les richesses de l'Égypte. Et il faut dire que c'est la même manière que Dieu agit en nous aujourd'hui. Quand je considère, par exemple, moi-même, je travaille et je suis dans un monde avec beaucoup d'autres qui poursuivent des richesses. Et je dois dire que Dieu m'a donné beaucoup plus que je pouvais jamais imaginer. Mais je prie toujours, par sa grâce, de ne jamais mettre mon cœur sur ces choses. Nous avons certains privilèges que Dieu nous a donnés, comme par exemple cette technologie. Il y a certains parmi nous où nous avons la facilité d'entrer en communication et nous avons l'ordinateur, nous avons une tablette, nous avons un téléphone. Bon, peut-être que pour cela on se considère pas toujours riche, mais par rapport à d'autres, je pense même aux frères qui est en train de vouloir suivre avec nous, pourtant il n'a pas la possibilité, il doit dépendre d'autres manières pour rentrer en contact. Bon, qui fait cette différence? C'est Dieu qui fait cela, et pour sa gloire. Mais quel que soit ce que nous avons, on ne doit jamais pour cela dire que nous sommes mieux que d'autres, non. Notre besoin à cause de notre péché est le même. Peu importe ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de cette justice qu'il a accomplie à l'égard des pécheurs comme nous. Et c'est là que nous regardons. Nous préférons, comme Moïse, nous attacher à Christ et regardant la propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Le monde religieux sera contre nous parce que le message que nous avons annoncé n'est pas ce que ce monde-là cherche, mais cet opprobre de Christ, nous acceptons volontiers parce que nous savons que tout ce que nous avons, c'est en lui et tout ce qu'il a gagné pour nous. Alors voilà l'esprit de la grâce que je prie que Dieu nous donne. Et là où cette foi est donnée par Dieu, je dois dire que ça va se manifester dans ces mêmes désirs de donner toute la gloire à Christ et de suivre Christ et Christ seul. Dans Romains chapitre 8 et le verset 31, nous lisons, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ?» Quelles choses ? Quand on voit un peu plus haut dans le verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il s'agit ici des élus de Dieu qu'il a élus depuis l'éternité, pour qui Christ est venu dans le monde mourir. Et c'est pour cela, donc si nous sommes de ce nombre, c'est pour nous que toutes choses concourent au bien. Et voilà le Dieu que nous aimons. Nous sommes donné sa grâce pour l'aimer, autrement on ne l'aimerait pas. Et cette grâce nous pousse à l'aimer, à nous soumettre à tout ce qu'il ordonne, parce que nous sommes appelés selon son dessein. Alors, c'est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, notez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, déjà, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà les regards que Dieu donne à ses enfants, de donner toute la gloire à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ouais, il les a appelés dans le sens, il les a reconnus pour fils. Je m'appelle Ken. Donc c'est dans ce sens-là qu'il les a appelés. Il les a prédestinés. Il a inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et puis, ceux qu'il a appelés, cela veut dire, il a inscrit leur nom dans le livre de vie de son fils, il les a aussi justifiés, déclarés justes. Comment? Par la mort de Christ. Quand Christ est venu vivre sur cette terre, il n'a pas vécu en richesse comme le monde. Non. Il s'est dépouillé de toute gloire, si vous voulez, de ce qu'il avait auprès de ton père, et il est venu devenir non seulement un homme, mais un serviteur pour la gloire de son père, et il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est par là, cette œuvre, qu'il a justifié, le père a déclaré juste, une fois pour toutes, tous ceux qu'il représente. Ouais, c'est pas pour tout le monde, mais son œuvre est efficace pour ceux que le Père lui a donné, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quand est-ce que nous étions glorifiés? C'est quand Christ est ressuscité et il a ascendu au ciel. Le Père a glorifié son Fils en le ressuscitant, et dans son ascension, où aujourd'hui il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et je voudrais qu'on voit cela par la grâce de Dieu. Ça, c'est le trésor qui nous attend, qui est placé sur ce fondement. Et que dirons-nous donc alors de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On ne doit pas se confier dans des richesses terrestres. Ça, ce n'est pas notre espérance. Notre espérance est en celui qui fait toutes choses pour sa gloire. Et si il envoie son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, accomplir cette œuvre de salut à notre égard, qui sera contre nous? C'est certainement pas la pauvreté. Ce n'est pas les hommes rebelles qui vont changer le plan de Dieu. Alors, il dit dans le verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Voilà les véritables richesses dont Paul écrit à Timothée ici dans 1 Timothée chapitre 6. Et du verset 17 au verset 19. Dans Matthieu 19, il y a là un jeune homme riche. Et il a été mis à l'épreuve par le Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme avait beaucoup de qualités, évidemment, et il représentait pour les disciples quelqu'un qui semblait, de l'extérieur, être un candidat pour le royaume de Dieu. Si vous voyez là dans Matthieu chapitre 19. Mais c'est ici que nous voyons le Seigneur en train de le mettre à l'épreuve dans le verset 16. C'est écrit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est une question que beaucoup posent aujourd'hui. Et le verset 17, il répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Christ n'est pas là en train de rejeter le fait qu'il est Dieu, mais il demande à ce jeune homme pourquoi il appelle Christ bon. Parce que il n'y a qu'un seul bon qui est Dieu. Alors il est en train de dire à ce jeune homme, donc est-ce que tu m'appelles bon parce que tu crois véritablement ce que je suis Dieu dans la chair. Mais il continue, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Cela peut peut-être étonner quelques-uns, parce que on peut se demander pourquoi Christ lui a orienté vers l'observation de la loi, sachant que personne ne peut observer la loi pour être sauvé. Mais c'est en réponse à sa question. Il faut toujours garder ces versets dans le contexte. Dans le verset 16, « Maître, que dois-je faire? » Ouais, il n'est pas en train de demander à Christ ce que Christ peut faire pour qu'il rentre dans la vie éternelle, mais « Que dois-je faire? » Ouais. Et si quelqu'un s'approche de Dieu avec cette mentalité, cette question, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » La seule réponse que dans la Bible, il faut une parfaite obéissance. C'est toujours la réponse. Pour ceux qui veulent être acceptés devant Dieu par leurs œuvres, donc la réponse c'est que Dieu exige une parfaite obéissance. Alors pourquoi personne ne peut être sauvé par les œuvres? Mais ce jeune homme, jusque-là, n'apercevait pas cet aspect. Alors, c'est pourquoi il dit à Christ, dans le verset 17, « Lesquels? » C'est toujours cette manière de raisonner. Nous savons que la Bible dit que si quelqu'un n'obéit pas à tous les commandements, tout ce qui est écrit, et il désobéit même dans un seul point, donc il est condamné de toute la loi. Mais lui, il dit « Lesquels? » Alors, Jésus répondit, toujours en poursuivant cette voie de raisonnement de ce jeune homme. Il dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, par là, Christ est en train de lui dire ces choses, en fait, pour démontrer qu'il est déjà rebelle, parce que personne ne peut dire qui n'a pas tué quelqu'un. Peut-être qu'il n'a pas tué quelqu'un avec ses propres mains, mais nous savons, comme Christ a dit plus tôt dans ce livre de Matthieu, même si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « raca », qui veut dire « stupide », on se fâche contre quelqu'un, on dit « idiot ». Voilà le mot « raca ». Christ dit par là déjà quelqu'un est coupable d'un meurtre. Il est meurtrier. Alors déjà, on a violé ce commandement. Et on sait déjà, tu ne commettras point d'adultère. Christ a dit, si un homme regarde à une femme, même s'il ne la touche pas, mais regarde et convoite cette femme. Il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Personne ne peut échapper à ses commandements. Et surtout, quand c'est écrit dans le verset 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aucun de nous n'a jamais aimé son prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est évident. Quand tu es malade ou bien quelque chose ne va pas, tu arrêtes tout ce que tu fais pour s'occuper de ça. Mais il faut voir nos voisins. Il faut voir ceux qui sont proches à nous. Quand ils ont des difficultés, on n'est pas en train de traiter ceux-là comme si c'était nous-mêmes. On ne court pas immédiatement pour nous donner à tous ce qu'il leur faut pour les faire sortir de leurs difficultés. On n'aime pas, on n'a pas cet amour d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, à chaque point, on viole la loi de Dieu. Dieu est juste en condamnant des pécheurs tels que nous sommes. Mais voilà l'orgueil, et voilà, je dirais, l'aveuglement de ce jeune homme. Parce que dans le verset 20, c'est écrit, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Il y a beaucoup, aujourd'hui, dans les assemblées, qui imaginent qu'ils sont bons en ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Mais Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, » maintenant il est en train de suivre la voie de ce jeune homme, « Bon, tu dis que jusque-là, ça va. Va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Bon, est-ce que Christ par là est en train d'enseigner que c'est ce qu'il faut pour hériter le ciel? Non. Il est en train de donner ce qu'il faut pour mériter le ciel. Il y a une différence. Hériter, si je suis héritier, cela veut dire que quelqu'un est mort et il m'a laissé ses biens. Donc, je suis héritier. Mais mériter, voilà, ce jeune homme voulait savoir dès le départ ce qu'il faut pour mériter la vie éternelle. Alors, c'est pour cela qu'il dit, donc, si tu penses que tu es parfait, si tu veux vraiment être parfait, alors vends tout ce que tu possèdes. Bon, qu'est-ce que Christ est en train de montrer? Il est en train de montrer une certaine convoitise. L'homme peut dire ce qu'il veut, mais son cœur reste toujours attaché à ce qu'il a. Et c'est écrit dans le verset 22, « Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Maintenant, il y a certains qui disent, « Ah voilà, donc finalement il n'était pas sauvé. » Mais je crois, dans le verset 22, lorsque c'est écrit, « Le jeune homme s'en alla tout triste. » Ça, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Christ, par cette parole, était en train de démontrer à ce jeune homme qu'en réalité, il avait besoin de la repentance. Parce que la tristesse qu'il avait était au sujet de son cœur rebelle. Et c'est Dieu seul, c'est l'Esprit seul qui peut rendre un pécheur triste à l'égard de son attitude envers Dieu et envers lui-même. Et c'est pourquoi Christ dit dans le verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Notez bien, un riche entrera difficilement. Ça ne dit pas qu'un riche ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi dans 1 Timothée 6, il y en a que Dieu a rendu riches, mais qui ne sont pas attachés à ces richesses. Et ils se servent de ces biens que Dieu leur a donnés pour la gloire de Christ et de son royaume. je dois dire que je ne pouvais pas faire le ministère que je fais si ce n'était pas à cause de certains dans notre assemblée que Dieu a béni et qui donne libéralement de leurs biens pour le soutien de l'œuvre de l'Évangile. Et ça coûte. Il faut avoir de l'argent pour faire certains projets en ce qui concerne l'Évangile. Que ce soit acheter des Bibles pour ceux qui n'en ont pas, que ce soit des émissions à la radio. Je sais que le frère Aurélien a des émissions à la radio là-bas, et j'en ai ici aussi aux États-Unis. Quand tu vas à ces stations, il y a un contrat. Et il faut un moyen de pouvoir payer pour ces choses. Donc, ce n'est pas les richesses qui sont mauvaises. Dieu a béni certains, mais c'est de s'attacher à cela. Alors, c'est pourquoi il dit dans Matthieu 19, 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Voilà une bonne question. Si ça ne dépend pas des œuvres, si ça ne dépend pas de nous, par contre, toutes ces choses nous détournent de la voie, alors qui peut être sauvé? Et Christ donne la réponse. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Voilà le mot-clé là. Aucun ne peut être sauvé de lui-même. Mais à Dieu, tout est possible. Cela veut dire que c'est Dieu seul qui sauve. Alors, des points qui sont très importants pour nous, de savoir que si le royaume des cieux est pour nous, c'est une grâce. Et les richesses de la grâce de Dieu, c'est ça qui fait entrer dans le royaume des cieux et non pas notre propre richesse. Nous n'en avons pas. C'est la grâce de Dieu et ce sont les richesses de sa grâce en Christ qui nous fait hériter le royaume des cieux. Parce que personne ne peut mériter le royaume des cieux. Ça, c'est Christ qui a mérité le ciel, le royaume des cieux, à l'égard de son peuple. Alors, je vais m'arrêter là et voir si peut-être que vous avez quelques points aussi à ajouter à ce passage.
Ah, très bien. Je voudrais souligner deux aspects dans ce que nous venons de voir effectivement dans ce passage-là. Mmh. Parce que l'apôtre Paul exhortait qu'il ne faut pas mettre son espérance dans des richesses incertaines. Et la richesse en elle-même est un bien relatif. Quelqu'un qui amasse des biens ne se voit riche que par rapport à quelqu'un d'autre qui l'estime n'ayant pas autant. Et par rapport à cela, la richesse est réellement incertaine. On pourrait dire que la richesse n'est pas une réalité parce que le pauvre, celui qui n'a pas ce que l'autre a, se regarde relativement pauvre par rapport à celui qui possède. Mmh. Et celui qui aussi possède se regarde relativement pauvre par rapport à celui qui possède plus que lui. Autrement dit, si l'on n'a pas Dieu et qu'on ne voit pas Dieu seul comme la seule richesse, tous les hommes se voient riches par rapport à quelqu'un d'autre ou pauvres par rapport à quelqu'un d'autre. C'est ce que je n'entends pas la relativité des richesses. Et c'est justement ça que vous venez de souligner, c'est très intéressant parce que, et l'apôtre aussi vient de souligner ça, et ce n'est donc pas la richesse qui est le problème, mais ce sur quoi on se fonde en se regardant comme riche ou comme pauvre et en s'évertuant à travailler pour amasser des richesses. Si j'amasse des richesses par rapport à d'autres, et pour me voir riche, espérant que je suis riche, c'est là où je peux même dire que je ne suis pas croyant, je ne suis pas dans la foi. Et l'autre aussi qui regarde la richesse, et parce qu'il n'a pas amassé autant, se regarde comme pauvre, c'est qu'il n'est pas du tout croyant, il n'est pas dans la foi. C'est ce que Christ disait dans Luc 12, par exemple, où un homme insensé se disait que et son âme a beaucoup de biens en abondance. Et il lui recommande même de se reposer et de dormir. Dans Luc 12, verset 20, Christ répond pour dire, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc en réalité, si notre trésor que nous amassons, tout ce que nous faisons pour devenir riche, n'est pas comparé à Dieu au point de nous voir riches seulement en Dieu, même si nous avons amassé beaucoup, nous sommes insensés. De la même manière, si je me vois pauvre et je suis en train de me battre pour avoir la richesse, espérant que quand j'aurai suffisamment de richesse là, c'est en ce moment que j'ai une espérance, je suis là en train de me fonder sur de fausses espérances. Parce que ça là, comparé à Dieu, me rend totalement pauvre. C'est ça, il dit, vous êtes riche pour vous-même, et vous avez tout fait pour amasser des richesses pour vous-même, afin d'avoir une espérance. Mais si on vous compare maintenant à Dieu avec toutes vos espérances-là, vous n'êtes pas du tout riche pour Dieu. Donc il n'y a réellement de richesse que Dieu seul qui est uni à notre esprit et à notre âme. Et si nous sommes en train de travailler pour avoir des richesses, ce ne sera pas pour nous comparer à d'autres que nous estimons pauvres, ou pour, en nous comparant à d'autres que nous estimons plus riches que nous, mais c'est parce que nous nous fondons notre espérance sur Dieu qui est la seule richesse, et travaillant en nous voyant riches pour Dieu à travers Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup le passage que vous venez de lire dans Jacques 1 là, où il dit que le riche de condition humble se glorifie de son humiliation, de son élévation, et que le pauvre, au contraire, se glorifie de son élévation. Dans ce verset, je suis en train d'exprimer que Jacques est en train de préciser que le riche par rapport à ce monde et le pauvre par rapport à ce monde ou des richesses incertaines là sont tous des frères en Christ dans l'Église. Maintenant, si quelqu'un est véritablement enfant de Dieu et a Christ en lui, et Dieu, chérissant son esprit de Christ en lui-là, celui-là va se voir toujours pauvre, quelle que soit sa richesse, à cause de la présence de Dieu dans son esprit. C'est ainsi qu'il va se voir et rabaissé. Quelle que soit la masse de richesse que nous avons selon la chair, si nous sommes avec Dieu et que Dieu est avec nous en esprit et en vérité, nous nous voyons totalement pauvres.
Amen.
Et celui qui n'a pas beaucoup de richesses dans cette vie, quand il y a Dieu dans son esprit qui est uni à son esprit et à son âme, il se voit totalement élevé. Notre sujet de gloire ce n'est, et de honte n'est pas le fait que nous n'avons pas d'abondance de richesses ou que nous avons d'abondance de richesses. Les hommes qui ont Christ et qui ont Dieu attaché à leur esprit et à leur âme, quelle que soit la multitude des richesses qu'ils ont, comparativement aux autres qui n'en ont pas, se voient toujours totalement pauvres et entièrement riches selon Dieu, avec le trésor qui se trouve attaché à Dieu. Même quelqu'un est totalement pauvre et n'a pas suffisamment de choses par rapport aux autres, lui se voit toujours élevé, riche selon Dieu. Donc l'espérance du croyant, le repère du croyant doit être fondé sur Dieu, quel que soit ce qu'il fait, ou avoir de la richesse. et surtout pour nous, le mobile pour lequel nous cherchons l'argent et travaillons pour l'avoir, c'est pour subvenir aux besoins pressants. C'est pour soutenir l'évangile comme vous venez de dire. L'évangile prêché à la radio, c'est comme la richesse convertie en incorruptibilité. L'évangile, l'argent que nous utilisons pour avoir tout ce qui va nous permettre de communiquer l'évangile pour que Dieu, par l'esprit, sorte de nous pour entrer dans quelqu'un d'autre, c'est une conversion du matériel en spirituel.
Ouais.
Donc, quelle que soit la richesse que nous avons, si cela n'est pas utilisé pour nous faire des amis, vous voyez, et qui seront reçus dans des tabernacles éternels, comme Luc 16 nous dit, donc cette richesse est fausse et nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne espérance. C'est ce que je crois Paul en train de dire, que amasser des trésors pour l'avenir.
C'est ça.
C'est-à-dire, nous amassons des trésors, nous convertissons cela par le soutien de l'évangile, et c'est lorsque l'évangile est prêché et que Dieu est communiqué à l'esprit et à l'âme des gens que ces hommes sont véritablement riches et pour toujours. Sans Dieu, donc, la richesse d'un homme est une grande pauvreté. Avec Dieu, la pauvreté d'un homme est une grande richesse.
Amen.
Et Dieu élève le frère de condition humble de cette façon et diminue le frère de gloire élevé de cette même façon. De sorte que ce soit le pauvre relativement au bien matériel qui a Dieu, il doit se glorifier du fait qu'avec Dieu, il est élevé. Que ce soit le riche comparativement aux autres pauvres à d'abondantes de richesses, il doit se sentir humilié du fait qu'à côté de Dieu, il n'est rien. Et c'est notre seul sujet de gloire. C'est aussi notre seule raison pour laquelle nous travaillons et nous nous battons pour gérer bien les richesses afin de mieux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est donc cette précision que je voudrais remettre et mettre par rapport à cette recommandation. Et je vous remercie vraiment et rends grâce à Dieu que vous avez si bien souligné et que en réalité que Dieu par son esprit nous donne réellement de faire la part des choses.
Ah oui.
Merci.
Merci frère, ça c'est bien dit.
Voilà, vraiment je vous remercie beaucoup vraiment pour ce message là. On dirait que ce message d'aujourd'hui était pour moi. Ce que le frère Olé a dit, ajouté à ce que vous avez dit, réellement, ce message-là m'a mis à nu. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée dans sa véracité, alors il met le pécheur réellement à nu. C'est seul Dieu qui est parfait, l'homme est imparfait. Alors, ce message-là me place vraiment dans une position confessionnelle de repentance, et je suis en train même de le faire. Parce que il faut reconnaître, mon frère, que l'argent, c'est une force. Si on n'est pas garni de la sagesse vraiment du Très-Haut, c'est difficile d'avoir la maîtrise devant certaines situations. Alors, des fois, et quand nous voyons ce que nous trouvons, est-ce que nous utilisons réellement à la cause de Dieu, nous voyons toujours qu'il y a infallibilité, comme le frère Ken vient de dire. L'homme réellement dans sa n'a pas de perfection. Alors, c'est Dieu qui fait cette perfection. Vraiment, si je vois ce penseur-là, c'est pas que je veux philosopher, mais ce philosophe-là, il a dit que là, pour l'argent, pour la fortune, il faut un grand esprit. Autrement, la fortune est un danger. Cela me fait rappeler un de mes amis ici que je prêche, et qui est dans ma communauté, dans ma petite communauté. Alors, un jour, il a eu beaucoup d'argent. Et au lieu de... C'était un catholique. Et maintenant même, il a abandonné ça parce qu'il est en train de suivre réellement mes conseils. Il est allé payer une mobilette, une grosse mobilette. Il est allé voir, alors, et il a fait un accident. Et quand il voit aujourd'hui ses pieds, j'ai même fait la photocopie une photo de ses pieds. Alors, chaque jour, nous prions pour cela. C'est pour dire que l'argent peut conduire au mal. Alors donc, pour cela, vraiment, nous devons prier, même les uns pour les autres, pour que Dieu puisse nous donner la sagesse réellement d'avoir la maîtrise vraiment sur ces choses-là. Si nous voyons réellement beaucoup de conflits, beaucoup de choses, même des pasteurs trompeurs, tout cela, c'est vraiment pour l'argent. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour tout ce que vous avez fait pour moi, parce que par ce message-là, je vois que j'ai vraiment besoin de beaucoup de confessions. Parce que des fois, j'ai un fond. Je dois faire quelque chose de Dieu avec ça. Mais vraiment, c'est pas toujours facile. Vraiment, implorons toujours Dieu pour que Dieu puisse nous guider avec sa sagesse et avec ses messages qui nous fortifient chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Oui, c'est bien. J'aime la manière que le frère l'a dit tout à l'heure, que amasser un trésor pour la vie éternelle, c'est de convertir tout ce que nous avons en bien pour le bien-être spirituel d'autres. Quand on voyage d'un pays à l'autre, les dénominations que nous amenons avec nous, l'argent, on doit convertir pour utiliser dans ces pays-là. Et ça m'a fait penser au fait que ce que nous avons, que le Seigneur nous a donné comme bien, doit être converti spirituellement pour le pays, si vous voulez, qui est éternel, et pour les âmes de ceux que le Seigneur lui-même est en train d'appeler par sa grâce. Alors toujours, c'est Dieu qui donne le bien, c'est lui qui donne aussi les moyens de pouvoir vivre, mais comme je disais au départ, nous ne sommes que des administrateurs de ces biens pour la gloire de Dieu, et que Dieu nous donne cette fidélité toujours envers ce qu'il nous donne, qu'on ne saisit pas ces choses pour nous-mêmes comme un mauvais serviteur, un serviteur injuste, mais qu'on utilise tout cela pour la gloire de Christ, de Christ seul.
Oui, mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est la partie, là. Effectivement, en ce qui concerne les richesses, ça m'interpelle toujours. Et quelquefois, le croyant est souvent tenté de devenir riche. Or, que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nous interpelle de faire beaucoup attention aux richesses qui sont vraiment déplacées. Parce que, quand on regarde dans le contexte, que si tout ce qu'on a, l'enfant de Dieu doit se contenter de ce qu'on a et ne pas devenir chercher à être couru après les richesses. Les richesses à tel point que de être vraiment un homme cupide. Voilà. Mmh. Moi, je me rappelle quelques années, il y a longtemps, quand on commençait à embrasser l'évangile pour la première fois à Genoa, et il y avait un monsieur là qui suivait l'évangile avec nous. Il était professeur au collège Zadi. Et en plus de ça, au lieu de se contenter de son salaire, il a commencé à ouvrir maintenant son école et il cherchait maintenant à devenir. Il a acheté des voitures. Il a ouvert l'école, il voulait devenir fondateur rapidement. Mais pour finir, non seulement ça l'a éloigné de l'évangile, il a fait la prison. Voilà. Donc quand Paul dit ici. Et ça, c'est des choses qui nous ont beaucoup interpellé à l'époque aussi. Quand Paul dit ici que car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, c'est pas faux. Et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés en eux-mêmes bien des tourments. Alors, l'apôtre Paul le dit vraiment, c'était valable pour Timothée, mais en même temps aussi pour nous, de nos jours, c'est valable pour nous. Et il faudrait que nous fassions beaucoup attention sur les biens matériels. Et ce que nous devons rechercher dans tout ça, c'est l'évangile et la foi. La foi. Et être attaché aussi à la parole de Dieu. Voilà. Donc, il dit aussi, comme l'a bien souligné ici, dans le verset 17 aussi, on dit que recommande aux riches, comme le pasteur Julien le dit tout à l'heure, c'est pas parce que les gens, il n'y a pas de riches, il y a des gens que le Seigneur a rendus riches. Mais dans toutes choses, dans toutes ces richesses-là, il dit, recommande aux riches, du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout en abondance pour que nous enrichissions. Ouais. Et le verset 18 dit qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en œuvre bonne et qu'il ait la libéralité et de la générosité. Alors, moi, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de riches qui ont ces qualités-là, hein, de la libéralité, de la générosité. Les gens courent aujourd'hui avec l'argent, sont à la recherche d'argent, sont riches, ils deviennent de plus en plus riches. Et l'apôtre Paul fait bien de le souligner pour dire à Timothée que toi, Timothée, combat le bon combat de la foi. Il dit, mais pour toi, voilà la distinction, toi, enfant de Dieu, mis à part.
Ouais.
Tu veux prêcher l'évangile, et tu veux devenir un bon prédicateur de l'évangile, tu veux devenir un bon enseignant, tu veux diriger une assemblée fidèle de l'évangile. Il dit, mais pour toi, homme de Dieu, suis ces choses et recherche la justice de Christ, voilà, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Voilà, ces choses-là ne sont pas considérées comme des lois ou bien des restrictions que Timothée doit respecter. Mais en fait, c'est ce qui doit caractériser un véritable enfant de Dieu qui dirige une assemblée, qui dit que recherche la justice, la piété. Ne pas prendre la piété comme une source de gain, comme nous l'avons déjà vu. Voilà. Et effectivement, il y a des gens qui ils sortent pasteurs, ils sortent des prédicateurs. Dès qu'ils commencent à diriger une assemblée, alors là, ils commencent à poser des restrictions. Oui, il faudrait que vous donniez la dîme. Il faut que vous donniez la dîme. Il y en a même qui disent, si vous ne donnez pas la dîme, vous allez voler Dieu. Il y en a encore qui disent encore que le diable va voler votre argent. Hein? Il faut que Dieu donne votre finance. Donc, ils incitent les gens à combattre dans ce sens pour qu'ils soient riches, pour que Dieu leur donne beaucoup d'argent. On voit ça peut-être qu'aux États-Unis, qu'est-ce que tu es là-bas, et il y a ce qu'on appelle l'église de prospérité, où le prédicateur incite les gens à devenir riches. Alors, c'est tous ces pièges-là qui sont réunis et que, par expérience, l'apôtre Paul dit à Timothée, mais aussi à nous aujourd'hui, qui prêchons l'évangile de ce moyen, de ces choses, que la piété, ce n'est pas une source de gain. Mais si c'est une source de gain dans le sens que tu t'attaches à ce que Dieu t'a donné, comme les vêtements, la nourriture, en fait, ce que Dieu t'a donné, tu dis oui, ce que j'ai, ça me suffit. Et ne pas chercher des richesses incertaines. Voilà. Donc, pasteur, tu fais bien de souligner ces choses-là, et tu fais bien de nous l'enseigner, et nous qui écoutons, ça nous fortifie par la grâce de Dieu, et que on doit beaucoup faire attention. Et nous faisons beaucoup attention que ce que le Seigneur nous donne, le travail, notre femme, nos enfants, ça nous suffit, et de ne pas être très envieux, orgueilleux, comme pour la l'a beaucoup souligné. Voilà. Donc, voilà, moi, vraiment, voilà ce que j'avais envie d'ajouter.
Ouais.
Et que, voilà.
Très bien. Très bien. Nous avons besoin de ces exhortations. Nul d'entre nous n'est exempt de ces exhortations parce que nous avons la même nature que n'importe qui. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous vivons, et qui nous donne cette sagesse. Réellement, ça prend la sagesse de Dieu de se contenter. Voilà le mot-clé, le contentement. Se contenter de tout ce que nous sommes déjà en Christ. Et comme l'apôtre Paul dit, il sait vivre dans l'humiliation et il sait vivre dans l'abondance. Et
tout à fait.
Que ça soit dans l'humiliation ou l'abondance, ça prend la grâce de Dieu. Alors, merci bien.